Jean-Jacques Lade, c'est vrai, est mal connu du grand public. On pourrait même dire qu'il est tout à fait inconnu du grand public. Il suffit d'écrire son nom dans les moteurs de recherche sur Internet pour n'y trouver qu'une ou deux ou trois références à celui qui fut pourtant l'inspirateur d'un nombre considérable de personnes dans tous les milieux, et cela à travers plusieurs générations. Jean-Jacques Lade a enseigné depuis pendant environ une trentaine d'années. Et à travers son enseignement, il a touché aussi bien des gens qui deviendront des professeurs de philosophie, des physiciens, des médecins, des informaticiens, des biologistes, qui exerceront toutes sortes de professions. Peu d'entre eux, cependant, consacreront des travaux ultérieurs plus développés à la Kabbale, qui était pourtant l'objet central de l'enseignement de Jean-Jacques Lade. Il serait fastidieux de citer tous les noms, ou même quelques-uns des noms de personnages qui sont maintenant connus d'un public relativement large, et même parfois d'un grand public. Et puis, ce serait peut-être indiscret de ma part. Mais on peut citer tout de même au moins deux personnes qui continuent l'enseignement de Jean-Jacques Lade d'une manière qui leur est propre. L'un est un philosophe qui enseigne entre autres dans les classes supérieures, dans les classes préparatoires, et qui est également un directeur de programme au Collège international de philosophie. Il s'agit de Claude Birman, qui a écrit avec Jean-Jacques Lade un ouvrage auquel j'avais participé en 1981 qui s'intitule Caïn, où le sous-titre c'était Les origines de la violence. Claude Birman, donc, qui continue à étudier la Bible tout en s'inspirant de nombreuses intuitions de Jean-Jacques Lade, et un physicien qui est chercheur au CNRS, dans le domaine de la physique du solide, si je ne m'abuse, et qui enseigne aussi des cours qui sont des reflets de l'enseignement de Jean-Jacques Lade, et qui s'appelle Francis Bailly. Bien sûr, ce ne sont là que deux noms parmi un très grand nombre. Je préfère ne pas citer d'autres noms, mais la liste serait vraiment longue et impressionnante des personnes et des personnalités qui ont été, à un moment ou un autre de leur itinéraire, des élèves de Jean-Jacques Lade. Nous formions un petit groupe d'études qui se réunissait le soir, une ou deux fois par semaine, et qui, composé d'une dizaine de membres, parfois moins, consacrait des heures, de longues heures, à écouter Jean-Jacques Lade, à lui poser des questions et à discuter des problèmes que nous rencontrions dans les textes. En général, c'était des textes du Tikkun-e-Hazohar avec le commentaire du Gaon Élie de Vilna. Une des particularités des enseignements de Jean-Jacques Lade, c'était que ses cours s'achevaient toujours par des questions. On pouvait prendre cela aussi pour des apories. La question qui revenait toujours, c'était, eh bien maintenant, que faire? Question qui pouvait être formulée de multiples façons, mais qui revenait toujours à cette interrogation fondamentale. Maintenant que nous avons avancé, que nous avons compris, eh bien il faut tracer la carte d'une action à entreprendre. C'était un petit peu l'obsession de Jean-Jacques Lade. Il voulait une action, et une action qu'il disait messianique. Et c'est d'ailleurs à cela, à cette recherche, que l'on doit la rencontre entre Jean-Jacques Lade et Benny Lévy, puis par la suite un groupe d'anciens maoïstes, qui comprenaient aussi quelques anciens trotskistes, d'anciens membres actifs des gens qui avaient fait des actions qui s'étaient constituées dans dans différents groupuscules à l'issue des événements de mai 68. Cette rencontre entre Jean-Jacques Lade, Benny Lévy et puis à travers Benny Lévy, Jean-Paul Sartre a été un moment important, un tournant dans son itinéraire. Un tournant, mais en même temps, la façon dont les choses se sont passées, qui a sans doute laissé un goût un peu amer, a fait que ce qui peut être considéré comme un tournant peut être regardé d'un autre point de vue comme une simple petite parenthèse qui durera tout de même quelques années. Et à ce moment-là, les cours de Jean-Jacques Lade, d'une dizaine de personnes au mieux, étaient devenus des cours quasiment publics. On pouvait compter 20, 30, 40 personnes. Sa pensée rayonnait bien au-delà des petits cercles des habitués. Jean-Jacques Lade espérait qu'autour de lui allait se constituer une sorte de mouvement messianique dont le moteur, l'énergie serait constitué des anciens révolutionnaires, surtout d'anciens maoïstes. Et il ambitionnait pour cela de contrôler les idées qui circulaient, qui s'échangeaient, et les actions, surtout les actions à entreprendre. Un des premiers accrocs dans cet itinéraire, dans ce compagnonnage, a été très très sensible à l'occasion du coup d'État de Jagiellonski en Pologne. À cette occasion, les anciens 68ards, les ex-maoïstes, avaient pris fait et cause pour le mouvement Solidarność. Mouvement donc de révolutionnaire à l'époque par rapport au communisme qui faisait encore peser sa chape de plomb sur l'Europe de l'Est et sur la Pologne en particulier. Benny Lévy, avec d'autres, avait organisé un mouvement de soutien autour du mouvement de Lech Walesa en Pologne, avec des voyages organisés vers la Pologne, dans le but d'apporter un soutien, une aide logistique et financière à ceux qui étaient persécutés par le régime communiste qui avait repris en main les destinées de ce pays. Jean-Jacques Lade n'avait pas caché un certain scepticisme par rapport à cet appui qu'accordaient les anciens maoïstes qui s'étaient regroupés autour de lui. Il considérait les Polonais comme irrémédiablement antisémites, et ses sympathies étaient toujours clairement portées sur tout ce qui pouvait s'opposer et maintenir en état de carence intellectuelle, si on peut s'exprimer ainsi, les Polonais en qui il n'avait absolument aucune confiance. Bien sûr, ce fut l'occasion d'un clash entre lui et Benny Lévy, d'un premier clash. Il y en eut d'autres. Je ne vais pas retracer toutes les péripéties de ces relations qui furent à un moment donné assez tourmentées, mais qui avaient été très fortes et fécondes aussi pendant un long moment. Toujours est-il que, à travers Jean-Jacques Lade, le vocabulaire, les grands concepts, les grands textes de la Kabbale et de l'interprétation kabbalistique de la Bible avaient franchi les portes des petits cercles d'études qui se succédaient à la rue de l'Assomption, là où Jean-Jacques Lade enseignait. La Kabbale avait atteint un public beaucoup plus large, public qu'elle n'avait pas rencontré, qu'elle n'avait guère rencontré jusque-là. Et ce fut l'occasion d'un nouvel élan d'intérêt envers elle, avec bien entendu des lectures parallèles, des sollicitations pour d'autres cours donnés par d'autres personnes. De nombreuses personnes furent marquées par cet épisode et en portent encore un souvenir à la fois ému et nostalgique. Pour certains d'entre eux, dont je ne citerai pas les noms, ce moment a été aussi l'occasion d'un renouvellement de leur propre façon de voir le monde. Peut-on dire que cela a participé au début des années 80, parce que ça se passe à peu près à partir de 1980, 81 et dans les années suivantes, au nouveau mouvement religieux, aux nouvelles formes de religiosité que l'on connaît ces dernières années. D'une certaine façon, il est peut-être légitime de penser qu'il s'agisse d'une forme préalable, des antécédents qui ont préparé les nouvelles façons de se rapporter à la religion et au croire, tel qu'on peut l'observer aujourd'hui dans la société contemporaine. Même s'il s'agissait de petits groupes qui ne dépassaient guère au plus fort moment de cette agitation, de cette effervescence, une cinquantaine, voire une centaine de personnes, en comptant très largement les amis et les amis des amis, le rayonnement de cette effervescence a été beaucoup plus important qu'il ne pourrait sembler à première vue. Il y eut des retours au judaïsme, à la religion, à la pratique religieuse, qui furent suscités par cette effervescence. Il y eut même des conversions au judaïsme. Les personnes qui ont vécu, qui ont traversé cette période, en ont été marquées, je crois, pour toujours. On peut observer aussi un autre phénomène dans les cours qui s'est produit, donc dans les cours de Jean Zaclade, c'est une certaine distanciation par rapport aux institutions juives, au rabbinat. Jean Zaclade n'était certainement pas en odeur de sainteté dans les institutions juives rabbiniques. Il se considérait lui-même comme un proche du mouvement juif libéral, tout en n'étant pas totalement collé à leur idéologie. C'est au sein des synagogues libérales qu'il assumait les prières, les fêtes. Cela n'était pour lui qu'un pis-aller. Il espérait que tôt ou tard, une synagogue se construirait et un mouvement se développerait autour de la Kabbale telle que lui-même la concevait et qu'il l'enseignait. Ce qui rendait l'enseignement de Jean Zaclade assez difficile et impénétrable, du moins aux néophytes, c'était son caractère volontairement formel et abstrait, la plupart du temps, à quelques exceptions notables près, cependant. On peut dire que la pente de l'enseignement de Jean Zaclade était clairement orientée vers une abstraction, un formalisme de plus en plus grand, de plus en plus poussé, alors que ses enseignements initiaux, les plus anciens, avaient un caractère plus intuitif, plus charnel, si l'on peut dire, que ses enseignements plus tardifs. Jean Zaclade n'accordait qu'une importance secondaire, et peut-être même tout à fait nulle, au développement des études universitaires, académiques, scientifiques, historiques de la Kabbale, qu'il considérait comme le moyen d'accéder à certaines sources difficiles à pénétrer à cause de leur caractère inédit, de leur obscurité philologique, linguistique. Mais pour lui, il ne s'agissait pas là de l'essentiel. L'essentiel se trouvait à ses yeux dans le contact direct que seul l'enseignement oral rend possible entre un maître et ses élèves. C'est pourquoi il ne fit guère d'efforts lui-même en vue d'obtenir un poste dans une université. Il se trouvait bien à enseigner, comme il le faisait souvent à des élèves de terminale de l'école Yavné, où il était professeur de philosophie, constituer pour eux un vivier de potentialités qu'ils pouvaient développer, toujours disponibles, et également à des personnes de rencontre que des amis et des amis d'amis et des amis d'élèves pouvaient lui présenter. Les élèves de Jean Zaclade, en terminale, le considéraient comme quelqu'un d'un peu lunaire, d'impalpable, de complexe, voire d'énigmatique. Certains se méfiaient de lui. Quelques-uns, cependant, s'enthousiasmaient pour son enseignement. Peut dire que l'itinéraire de Jean Zaclade, du catholicisme au judaïsme, a été rendu possible, a été configuré par son rapport à la Kabbale. Je crois que l'on peut vraiment dire de lui que si la Kabbale n'avait pas existé depuis longtemps, au début donc dès sa jeunesse, il serait devenu et resté peut-être chrétien, catholique. Les cours de Jean Zaclade n'avaient rien de pédagogique, de didactique, de scolaire. On était de plain pied avec un enseignement exigeant qui ne faisait guère de concessions à la facilité, à l'explication méthodique. Il fallait soi-même reconstituer le puzzle, recombiner par ses propres moyens tous les éléments qui étaient dispersés dans des cours, souvent, le plus souvent, donnés à partir de commentaires du Tikkun Zohar, qui n'avaient eux-mêmes, commentaires du Gaon de Vilna, qui n'avaient eux-mêmes rien de systématique, puisqu'ils suivaient l'ordre d'un texte, qui à son tour était lui également sans ordre didactique particulier. Parmi les grands adversaires intellectuels de Jean Zaclade, il y avait Heidegger et la psychanalyse. On peut dire que c'était là les deux ennemis de la pensée de Jean Zaclade qui se constituaient contre eux, en grande partie. Il admirait Gilles Deleuze et d'autres philosophes français comme Gilles Gaston Granger, une forme de philosophie donc très rationaliste, très formaliste. Il considérait Emmanuel Lévinas comme un bon philosophe, mais un piètre connaisseur du Talmud. Il l'admirait pour son œuvre phénoménologique, mais il n'avait aucune complaisance pour ses écrits juifs, ses écrits sur le Talmud. Je crois que chaque personne qui a assisté au cours de Jean Zaclade peut avoir son propre récit et sa propre version, sa propre appréciation du personnage. La mienne est certainement biaisée par mon propre rapport à lui. Cependant, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est le rôle qu'a joué la mouvance, le mouvement c'est trop dire, disons, le groupuscule éclaté, enfin, qui éclatait régulièrement, qui se reconstituait, qui éclatait à nouveau, autour de Jean-Jacques Lade, le rôle qu'il a joué dans la société contemporaine, qu'il a irrigué d'un renouveau par le nouvel intérêt et la nouvelle le nouveau rapport à la Kabbale et la nouvelle interprétation de la Kabbale qui en a émané. Disons que Jean-Jacques Lade a été un des affluents qui a nourri le fleuve qui constitue la Kabbale contemporaine. Si l'on peut appeler Kabbale contemporaine, les différents groupes d'études, les différentes associations qui se sont constituées, qui se constituent et se reconstituent autour et à travers l'étude et la propagation de l'étude et des livres de la Kabbale. Comme on l'a dit précédemment, par rapport au judaïsme, ces groupuscules sont des électrons libres. Le judaïsme organisé, institutionnel, ne leur reconnaît bien sûr aucune sorte de légitimité, bien que les membres qui les composent peuvent être par ailleurs des membres actifs de communautés juives ou de synagogues. Il y a une différence entre les engagements personnels et les intérêts intellectuels et religieux personnels et les engagements communautaires et les intérêts et engagements communautaires et culturels. L'étude, dans la mesure où elle est possible, des différents itinéraires des personnes et des groupes qui se sont formés autour de l'enseignement de Jean-Jacques Lade constitue un des grands chapitres de l'histoire de la Kabbale en France au XXe siècle. Peut-être un de ces chapitres est les plus intéressants et les plus dignes de l'observation sociologique.